Voilà, nous ont rejoint pour en parler Pauline Rovna, chef du service police-justice. Bonsoir à vous, Pauline. Dylan Slama, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Vous avez été l'avocat de Richard Berry. Bienvenue sur ce plateau. Et Caroline Rogard, vice-présidente de Pour les femmes dans les médias. Bienvenue à vous sur ce plateau. Pauline Rovna, pour récapituler, il a été placé en garde à vue. Au départ, on parlait de deux plaignantes. L'une qui travaillait dans l'équipe du film Les Volets Verts. L'autre qui participait au tournage du Magicien et les Siamois de Jean-Pierre Mocky. Oui. Les deux plaignantes, en l'occurrence, dont on parle et qui seront confrontées à lui lors du procès en octobre, sont finalement toutes les deux issues du tournage des Volets Verts. C'est bien
oui,
ça.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le dossier concernant le tournage de Jean-Pierre Mocky et cette femme de 24 ans qui l'accusait, ces faits-là sont prescrits. Et la justice en retient deux, qui sont des faits d'agression sexuelle présumés, des faits présumés datant de septembre 2021. Donc, vous l'avez dit, sur le tournage des Volets Verts, une femme décoratrice de 53 ans qui s'appelle Amélie et une troisième assistante réalisatrice de 33 ans. Ces deux femmes décrivent des faits sensiblement similaires, c'est-à-dire des propos obscènes et des attouchements sur la taille, les fesses et les seins, notamment la décoratrice de 53 ans qui avait évoqué très précisément un piège à loup dans lequel elle s'était retrouvée enserrée avec une force phénoménale, avait-elle dit, de l'acteur. Et il y avait fallu l'intervention d'une tierce personne pour pouvoir la dégager de l'emprise exercée par Gérard Depardieu en sa personne. Ce qui est intéressant ce soir, c'est de noter que la justice peut aller vite dans ces dossiers, finalement, et qu'on va assister en octobre 2024 à ce premier procès MeToo à la française, si je puis dire, dans lequel Gérard Depardieu va devoir répondre de ses faits d'agression sexuelle présumée. Et c'est une avancée considérable ce soir. Je parle sous le contrôle de Dylan Slama.
Dylan Slama, donc. Elle va particulièrement vite, la justice, là-dessus ?
Ah, bah, elle est extrêmement rapide, si vous voulez. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait une plainte, notamment en février, avoir une garde à vue en avril.
En mars,
vous voyez. Donc, un mois après avoir une garde à vue, c'est exceptionnel. Moi, je le dis pour toutes les plaignantes de France. Il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ça.
Et c'est parce que c'est Gérard Depardieu ?
Bah, je pense, oui. Je pense que c'est parce que c'est Gérard Depardieu. Et je précise une chose, c'est que lorsqu'on est mis en cause, très souvent, mes clients ont aussi envie que ça aille vite. Parce que se retrouver pendant des mois et des années avec une accusation sur la tête, on a envie que ça se termine le plus rapidement possible, de s'expliquer devant l'institution judiciaire et que ça se termine. Donc là, c'est très rapide et c'est heureux que ce soit rapide, mais c'est vrai que c'est un cas particulier. Malheureusement, c'est pas du tout révélateur de ce qui se passe tous les jours dans les tribunaux en France. Malheureusement, non.
Il risque quoi, là, Gérard Depardieu ?
Il risque une condamnation qui peut aller entre 5 et 7 ans, s'il y a une circonstance aggravante ou pas, selon ou s'il y en a plusieurs. Voilà. Après, on rentre dans des détails. Si vous voulez, il faut savoir exactement ce qui lui est reproché. Est-ce qu'un lien de hiérarchie peut lui être reproché dans le cadre de ce qui s'est passé sur le plateau? Voilà. Moi, j'ai pas ces éléments. Mais il encourt, en tout cas, une peine de prison ferme. Mais il demeure, à ce jour, présumé innocent. Donc, il l'encourt aussi, si je puis dire, la relaxe. Et il peut être totalement innocenté à l'issue de ce procès qui aura lieu en octobre également.
Caroline Rogard, Pauline sur le plateau parlait du premier procès MeToo à la française. C'est une avancée ?
C'est une avancée, mais on voit récemment que la condamnation d'Harvey Weinstein a été annulée, en tout cas pour le tribunal de New York. Donc, il faut aussi rester mesuré. Hein, et on voit quand même
qu'il reste condamné pour le tribunal de Los Angeles.
Oui, voilà,
mais pour des raisons de procédure.
C'est vrai que les choses peuvent évoluer aussi. On voit, en tout cas, que la parole se libère, et c'est vrai que c'est encourageant de voir que désormais des personnalités qui étaient vraiment protégées peuvent aussi, en tout cas, être en garde à vue.
Il faut rappeler, pardon, que Gérard Depardieu, il est aussi mis en examen dans un autre dossier concernant Charlotte Arnoux.
Alors justement, on va revenir.
Et là, c'est en fin de judiciarisation, donc il y aura aussi peut-être des avancées dans les prochains mois.
On va revenir sur ces autres affaires, justement, avec Alizée Boissin, puisqu'effectivement, il est déjà mis en examen pour viol, Gérard Depardieu, Alizée.
Oui, c'est ça. En fait, il y a d'autres affaires hein, que celles qu'on évoque ce soir, déjà. Vous avez raison, Depardieu, il est mis en examen depuis 2020 pour viol et agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoux. Elle avait porté plainte en 2018 et dénonçant deux viols au domicile de l'acteur. Et ce n'est pas la seule, il y a beaucoup d'autres, hein, notamment, par exemple, l'actrice Hélène Darras. Le 10 septembre 2023, eh bien, elle a déposé plainte contre l'acteur l'accusant d'agression sexuelle. La plainte a été classée sans suite. quelques mois plus tard. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y avait prescription. Les faits se sont déroulés lors du tournage du film Disco en 2007. Et donc, désormais, il y a prescription. Il y a une autre plainte, cette fois-ci en Espagne. En décembre dernier, la journaliste et auteure espagnole Ruth Baza a indiqué avoir porté plainte en Espagne contre l'acteur. Et tout ça, ça s'est passé eh bien pendant une interview en 1995. Et écoutez son témoignage, c'était sur notre antenne en décembre dernier.
En fait, c'est que Depardieu m'a fait, a été qualifié par les autorités comme un viol. C'est très douloureux pour moi et c'est très intense, mais c'est une réalité.
Au total, une quinzaine de femmes, actrices, figurantes, maquilleuses ou encore techniciennes, ont accusé publiquement l'acteur de violences sexistes et sexuelles. Alors face à ces accusations, eh bien, Gérard Depardieu il a réagi lors d'une tribune publiée dans le Figaro en octobre dernier. Il affirme, je cite, qu'il n'est ni un violeur ni un prédateur et il dénonce un lynchage orchestré par, selon lui, un tribunal médiatique.
Merci beaucoup, Alizée Boissin. Vous le disiez, le dossier judiciaire dans le cadre de Charlotte Arnoux est quasiment bouclé. Ça veut dire quoi concrètement ?
Ça veut dire qu'il va peut-être être renvoyé devant les assises. Là, c'est plus compliqué parce que ce sont des faits présumés de viol, alors que là, les agressions sexuelles présumées sont devant un tribunal correctionnel. Donc, c'est un peu plus compliqué à boucler judiciairement. Là encore, je parle sous votre contrôle, donc ça prend un peu plus de temps. Mais il est probable que, effectivement, ça bouge dans les prochaines semaines. En tout cas, on est en fin d'instruction sur ce dossier précisément.
On a l'impression, Roselyne Bachelot, qu'on assiste à un MeToo un peu tardif du cinéma français. On a beaucoup parlé aussi ces derniers jours, ces dernières semaines, des cinéastes Benoît Jacquot, de Jacques Doyon. Ça avance, dans le dossier Gérard Depardieu.
Est-ce que le MeToo est tardif ? On peut regarder les choses de deux façons. Que les procédures judiciaires arrivent lentement, certes, mais aussi le cinéma, le théâtre, enfin le spectacle vivant globalement, depuis un certain nombre d'années, ont pris conscience de ça et ont développé des procédures qui permettent d'abord d'informer les personnes, de dire les peines encourues, d'accompagner, de prendre la parole des plaignants et des plaignantes, parce qu'on parle des femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont agressés sexuellement sur les tournages ou sur les scènes de théâtre, et d'accompagner les personnes qui souhaitent porter plainte et de les inciter d'ailleurs à porter plainte. Et d'ailleurs, il y a plusieurs ministres de la Culture, je l'ai fait pour développer ces procédures, mais d'autres l'ont fait avant moi et les ministres qui m'ont suivi le font également. On est très mobilisés sur ces sujets. Donc, on a développé aussi des choses assez novatrices dans ce domaine. Mais la loi du silence, l'omerta règne parce qu'il y a des gens extrêmement puissants et qui ont en face d'eux des personnes dans un état de concurrence incroyable et qui sont effectivement dans une position de victime. Il y a un tel impérium psychologique du créateur, du cinéaste, du metteur en scène, c'est très difficile de résister. Et puis on se dit, voilà, il y a même des gens qui disent « Oh, c'est pas grave, il faut en passer par là, c'est horrible comme expression. »
Écoutez justement ce qu'en dit Anouk Grimbert, l'actrice Anouk Grimbert qui a dénoncé les agissements de Gérard Depardieu, on l'écoute.
Quand des producteurs de films engagent Depardieu sur un film, ils savent qu'ils engagent un agresseur, pas un agresseur potentiel, un agresseur. Je l'ai toujours entendu avoir des propos sexuels graveleux, mais oui, ça s'est très très gravement empiré avec la permission du métier qui permet ça, qui le paye pour ça et qui couvre ses délits.
Avec cette question, si ces comportements sont avérés, comment est-ce que le milieu du cinéma, en l'occurrence, a pu le tolérer, l'accepter aussi longtemps ?
C'est la question qu'a portée très puissamment sur d'autres faits Judith Godrèche lors des derniers Césars. Elle s'est posé la question de cette omerta et surtout, elle a posé la question de la poursuite de cette omerta aujourd'hui, alors même que certains faits ont été mis sur le devant de la scène. Après, je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit, parce que tout ce que dit Anouk Grimbert est juste et elle a toujours raison surtout. Mais je voulais revenir aussi sur ce qu'a dit Roselyne, c'est-à-dire qu'elle a parlé de la judiciarisation grandissante et de dire voilà, dans les théâtres, dans le monde du cinéma, on accompagne les femmes et les hommes pour qu'ils portent plainte. Mais en fait, ce qui serait bien, c'est qu'ils ne portent pas plainte. Et là aussi, en fait, il y a une prise de conscience. confiance. Là aussi, MeToo, en fait, a joué. C'est-à-dire que la justice, c'est juste une... Enfin, ou plutôt la justice comme institution judiciaire, c'est une petite partie, en fait, de ce qui fait aujourd'hui notre société. Et aujourd'hui, ces agissements sexistes, je le vois, même moi, à titre personnel, dans les endroits où je travaille, sont beaucoup plus rapidement arrêtés et... C'est tant mieux. Et après, je voulais rajouter une deuxième petite chose qui est très importante, c'est que même si les parcours judiciaires en fait ne vont pas jusqu'au bout, parce que hélas, la justice ne peut pas tout. L'institution judiciaire, elle ne peut pas parfois aller voir ce qui s'est passé dans un lit, et elle est bien démunie lorsqu'il s'agit de dire s'il y a eu viol ou pas. Donc elle classe sans suite ou autre. Ça ne veut pas dire que le viol n'a pas eu lieu. Ça ne veut pas dire que le crime n'a pas eu lieu. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que la vérité judiciaire, c'est une chose. C'est parfois différent de la vérité qu'ont vécu les femmes.
Dylan Slama, attention aussi à la présomption de culpabilité, c'est ça ?
Je suis un peu gêné pour ce que vous dites, parce que la vérité judiciaire doit rester, si vous voulez, la vérité considérée par tous, celle qui est considérée par tous les individus de la société. Sinon, chacun a sa vérité.
C'est pas vrai. Il y a d'autres choses en fait qui basent genre notre vérité commune que la loi. Je veux dire sur énormément de sujets, on va être d'accord vous et moi, c'est pas parce que un tribunal l'a décidé.
Voilà. Non, c'est pas parce qu'il
y a d'autres façons de créer de la vérité.
Ce que je veux dire, c'est que si jamais la justice et l'institution judiciaire innocentent un individu, cet individu.
Moi, je parle pas d'innocenté. Je parle de classer sans suite ou quoi que ce soit. C'est pas innocenté.
Bah si. Innocenté, classer sans suite. Relaxer.
Ce n'est pas rendre innocent. Ah non, certainement pas. Enfin, vous êtes avocat.
Mais je suis avocat.
Par exemple, quand il y a prescription maître, ça veut pas dire que les faits n'ont pas eu lieu.
Non, mais de toute façon, on ne rend pas quelqu'un innocent. On est innocent, sauf si on est condamné. Si je ne suis pas condamné, alors je suis innocent.
Et je reprends ce que dit Rosine, ça ne veut pas dire que les faits n'ont pas eu lieu.
Ça ne veut pas dire que les faits n'ont pas eu lieu, mais je termine la phrase que j'ai commencée tout à l'heure avant d'être
interrompue. Allez-y.
Si un individu n'est pas condamné et donc est innocenté par une décision de justice, alors à mon sens, il doit être considéré comme innocent par tout le monde. Il doit être considéré comme innocent, bien sûr, par la science judiciaire, mais également par la société, mais également par la presse, mais également par l'ensemble des acteurs ou des individus qui travaillent dans une
situation. Je suis d'accord sur le plan individuel avec ce que vous dites, reconnu innocent, il est innocent, mais je dirais que sur le plan de la société, ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir à ce qui se passe et aux mécanismes qui sont en place dans ces lieux, dans ces lieux de pouvoir et de création.
Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ce que je souhaite dire, c'est que si un individu est innocenté par la justice, je suis contre le fait qu'il y ait des parasanctions, des sanctions cinématographiques, des sanctions critiques. On va arrêter de l'employer.
Sur quoi on va se baser ?
Sur la justice.
Bah voilà, c'est
sur
la seule chose.
Mais c'est ce que je dis.
Je ne vois pas quel autre critère on peut avoir.
Mais c'est ce que je dis. Moi, je défends la justice judiciaire en disant que justement, elle doit avoir le monopole de la vérité. Parce que sinon, chacun donne son tempérament, chacun donne son sentiment et on ne s'en sort pas. Et finalement, la justice, à quoi sert-elle ?
Caroline,
est-ce que les femmes peuvent parler ?
Allez-y.
Non, mais pour que la justice passe, il faut aussi que les femmes portent plainte, les femmes et les hommes, mais on voit que c'est surtout les femmes, et donc créer les conditions. Et ce que moi je suis là aussi pour dire qu'il y a tout un secteur qui est mobilisé depuis plusieurs années, notamment le ministère de la Culture, mais aussi les partenaires sociaux, notamment le CNC, le Centre National du Cinéma pour le cinéma et l'audiovisuel, et qu'ils ont créé des conditions, notamment avec des formations obligatoires qui viennent d'être étendues à toutes les équipes de films. Mais au départ, c'était uniquement pour les producteurs qui forment pendant 4 heures en présentiel les équipes pour leur montrer les risques qu'ils encourent s'ils laissent des violences sexistes ou sexuelles perdurer sur leur plateau. On a aussi la cellule d'écoute Audience, qui est opérée par Audience, dont je dirige la communication, qui est une cellule d'écoute qui a été mise en place
par Rosine Bachelot,
vous étiez ministre, oui, madame la ministre, et qui est une cellule d'écoute psychologique et juridique qui est financée par le ministère de la Culture, mais qui est à l'initiative des partenaires sociaux, notamment de la FESAC, et qui est une cellule qui permet aussi d'accompagner les procédures judiciaires et de libérer la parole de ces femmes et de les orienter.
Qu'est-ce que ça vous inspire là ? Est-ce que vous vous dites, ça y est, l'omerta dans ce milieu-là, en tout cas, c'est terminé ?
Non, pas du tout. C'est un travail constant de sensibilisation, de prévention. On fait de la communication permanente, justement, pour alerter et prévenir dans tous les secteurs culturels. Enfin, c'est pas seulement le cinéma et l'audiovisuel. C'est aussi le spectacle vivant, le monde de l'édition qui vient de rejoindre la cellule.
Et comme l'a dit justement Pauline tout à l'heure, c'est un des premiers grands procès de l'ère MeToo, en plus sur un personnage qui est quand même très très connu de tous et de toutes. Moi, je serais les autres, je serais tous ceux qui sont des délinquants ou des criminels en puissance. Bah en fait, je ferai attention et je me dirai là, il est en train de se passer quelque chose et ça peut arriver très rapidement pour les autres.
La peur est le commencement de la sagesse.
C'est dissuasif.
Et exactement. Surtout en matière, pas toujours, mais pas en, toujours, matière, pas toujours. En matière de comportement inapproprié et criminel et ou criminel sexiste, je pense que tous ceux qui sont accusés et qui attendent en fait que leur procès se tienne, bah je me dis que là comme ça a été dit tout à l'heure sur la vitesse en fait de la justice, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et c'est tant mieux.
Il y a quelqu'un pourtant qui, il n'y a pas si longtemps, a continué à défendre d'une certaine façon Gérard Depardieu, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui, on le rappelle chez nos confrères de C'est à vous, disait la chose suivante. Il s'est dit grand admirateur de Gérard Depardieu, un immense acteur. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages dans le monde entier. Il rend fier la France. Voilà. Vous pouvez accuser quelqu'un, il y a peut-être des victimes, mais il y a aussi une présomption d'innocence qui existe. Il y a une chose dans laquelle vous ne verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme, je déteste ça. Et il s'était défendu lors de sa fameuse conférence de presse devant les journalistes, on écoute.
Je n'ai aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence pour une personnalité publique, un artiste en l'espèce, comme je l'ai fait pour des responsables politiques. Si j'ai un regret à ce moment-là, c'est de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes qui sont victimes de ces violences est importante et combien ce combat est essentiel pour moi et nous continuerons l'action.
Bruno.
En fait, dans sa conférence de presse, un mois après cette émission de C'est à vous, où il avait voulu, au fond, d'abord corriger sa ministre de la Culture, qui avait pris position pour le retrait, avait annoncé une procédure de retrait de la Légion d'honneur pour Gérard Depardieu, or c'est ça relève du président de la République, il avait voulu la corriger. Et au fond, il n'avait pas parlé des victimes, des femmes, en tous les cas, pas suffisamment. Et un mois plus tard, quand on voit tout le propos, vous l'avez passé entièrement. En fait, il regrette de ne pas avoir... Et donc, il corrige le tir dans cette conférence, de presse. Mmh. Et surtout, je pense que cette émission de C'est à vous a fait des dégâts considérables dans la popularité, dans la structure de popularité du président, quasiment décroché de 10 points auprès des femmes suite à ce qu'il a dit sur Gérard Depardieu, qui, dans son émission de C'est à vous, était extrêmement... au minimum, très mal calibré.
Parce c'est qu'il ça parle qui quand même de
c'est effectivement un très grand acteur et qu'on a les images du Cyrano Bergerac, de Jean-Paul Raynaud, de Sous le soleil de Satan. Mais c'est ça qui me rend aussi furieux, c'est que ce patrimoine, il avait raison, il a presque une vision patrimoniale de Gérard Depardieu, d'un géant du cinéma. Il ne devait pas nous faire ça, mon d'un chien, Gérard Depardieu.
Je suis d'accord avec vous.
Non, mais toute une société qui doit faire son examen de conscience, parce que s'il s'est permis des choses pareilles, c'est aussi qu'on laissait faire et qu'il y avait une sorte de glorification des stars à un moment pour lesquels tout était permis.
Et puis mes 68 aussi. C'est toute une génération et une libéralisation de certains comportements prônés par mes 68.
Moi, j'ai un petit souci avec ce qui est en train d'être dit actuellement, c'est que j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, le président de la République, a défendu un agresseur. Et j'ai le sentiment qu'à vous entendre, il a défendu un agresseur et un violeur. Non, il a défendu la présomption d'innocence. Oui. Il a défendu un homme qui n'est pas encore condamné et qui fait l'objet d'accusation. Oui, donc c'est pas la même chose.
Mais le président lui-même a reconnu dans sa conférence de presse qu'il a eu un regret, c'est de ne pas avoir.
Oui, mais il n'a pas défendu un agresseur. Et j'ajouterai une chose.
Une question, Dylan Slama. Est-ce que la justice a dit quelque part dans un compte rendu, dans une décision, que Gérard Depardieu était un grand acteur? Était un pack, comme tout ce qu'il a raconté. Non. Pour autant, Emmanuel Macron l'a dit. Et il l'a affirmé comme une vérité.
Mais Emmanuel Macron n'est pas que ministre de la Justice. Il est aussi garant de la culture française. Non, mais c'est juste pour vous dire que genre, patrimoine français.
En fait, la justice et l'institution judiciaire, je suis désolé, ça ne fait pas la pluie et le beau temps systématiquement. Enfin, je veux dire, il y a des choses, c'est important, en fait, pour vivre en commun. Et d'ailleurs, il faut qu'on puisse se reconnaître, en fait, dans cette justice pour qu'elle puisse vraiment exister. À partir du moment où, par exemple, sur ces questions de violence sexiste et sexuelle, on voit qu'il y a du retard, etc. Mais je peux vous dire que, genre, les femmes, les associations qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, aujourd'hui, elles ne font plus confiance à l'institution judiciaire parce qu'elle est trop lente, parce qu'elle est trop déficiente.
Je suis d'accord
avec ça. Et c'est un problème.
Sur la lenteur, je suis d'accord.
Oui, mais donc,
président de la République, il est aussi garant de l'indépendance de la justice. Donc c'est aussi son rôle de préserver la présomption d'innocence. Et moi, je vais aller plus loin. C'est, je trouve qu'il était formidable sur l'aspect de la présomption.
C'est des louanges, hein, non plus.
Je trouve qu'il est. Non, mais justement, je vais. Attention, petit revers, petite critique derrière. Il était formidable sur l'aspect de la présomption d'innocence. Moi, il y a une chose que je regrette, c'est que c'est ce qu'il a fait sur Damien Abad. Ça veut dire que justement, il dit tout le temps présomption d'innocence, présomption d'innocence. Et par contre, quand il a un ministre qui est mis en cause, il le laisse 3 semaines ou 1 mois en poste avant de le limoger sur la foi de simples accusations, alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'accusations, alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation. Donc c'est un peu fait
de ce point de vue-là, c'est variable.
Bah, ça a été variable. Il a respecté la présomption d'innocence sur pas mal de gens, sur François Bayrou, non, mais en tout cas sur
Dupond-Moretti,
sur Darmanin, sur beaucoup de gens. Mais sur Damien Abad, je trouve qu'il a été peut-être un petit peu lâche sur le coup.
Et il est toujours député dans le groupe Renaissance, hein, Damien Abad.
Oui, enfin, il a limogé de son gouvernement au bout d'un mois sur la base de ses seules accusations.
Deux poids, deux mesures.
Et donc, c'est un véritable deux poids, deux mesures, où en vérité, il protège un peu, où il prend la défense de Gérard Depardieu, sans doute à juste titre, mais j'ai trouvé un petit peu plus lâche s'agissant de Damien Abad.
Mais il ne rejouera plus jamais, Frédéric Hermel.
Non, c'est impossible. Non, mais vous imaginez un producteur mettre de l'argent dans un spectacle, dans un film. Non, mais c'est tout simplement. C'est fini pour lui.
Ou alors un biopic sur lui.
Oui.
Un biopic à charge.
Sur lui, à charge. Mmh. Mais lui-même ne pourra plus monter sur scène.
Lui-même a fait un biopic sur DSK,
voilà,
d'ailleurs.
Voilà, ne
pourra. C'est ça.
Bon, un film de Marco Ferreri absolument horrible.
Je ne l'ai pas vu, mais.
Mais vous continuez, vous, à regarder ces films? Vous continuerez à les regarder?
Mais bien sûr, c'est toujours un grand acteur.
Ça ne changera pas.
Ça ne changera pas, mais. En tout cas, c'est vrai que Emmanuel Macron, pour revenir au sujet précédent, avait dit que lui-même, il aurait dû plus parler de la parole des femmes. Il l'a reconnu dans la conférence de presse. Et c'est vrai que toutes les associations féministes, comme PFDM, MeToo Media, ont besoin aussi de se sentir soutenues, notamment par le président de la République.
Gérard Depardieu, qui sera donc jugé au mois d'octobre.